innovation as a key driver of its economy.
D'entrepreneurs, on parle innovation.
Investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
Vous écoutez.
Bien le bonjour à vous qui nous écoutez, vous êtes sur la radio 94.9 FM, nous sommes des étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne et nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode des Échos de l'Innovation. Je suis accompagné de Luna,
salut,
Julie,
bonjour,
et Fares.
Bonjour.
Et dans un épisode précédent, nous avions traité le cas du transhumanisme, utopie ou évolution inéluctable. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au sujet de « Peut-on être vraiment soi-même dans le transhumanisme ?» Alors, l'identité humaine, ça a toujours été une construction complexe, mêlant notre corps, nos pensées, nos souvenirs et les relations que nous entretenons avec les autres. Elle repose sur une conscience intime de soi, forgée par nos expériences, nos émotions et notre libre arbitre. Mais à l'heure où la technologie pénètre au sein de notre société, cette conception traditionnelle de l'identité est remise en question. Aujourd'hui, des avancées comme les implants cérébraux, les avatars numériques et les interfaces cerveau-machine repoussent les limites de ce que nous considérons comme humain. Nous vivons dans un monde où il est envisageable d'améliorer nos capacités mentales, de sauvegarder nos souvenirs ou même de transférer notre conscience vers des environnements numériques. Si ces technologies promettent de nous libérer de certaines contraintes, elles posent aussi des questions fondamentales. Qui sommes-nous lorsque notre esprit peut être manipulé ou numérisé ? Notre identité reste-t-elle la même si elle évolue au gré des innovations technologiques ? Cette révolution technologique promet aussi une nouvelle forme de liberté, celle de choisir et d'améliorer les aspects de nous-mêmes que nous considérons comme imparfaits. Pourtant, cette liberté a un prix. Si nos pensées, nos émotions et nos décisions sont influencées ou contrôlées par des algorithmes, sommes-nous encore pleinement maîtres de notre existence ? Dans ce monde où l'humain deviendrait hybride avec la machine, l'identité devient un concept fluide. Elle est à la fois enrichie et fragilisée par ces nouvelles possibilités. Mais cette évolution soulève également une question centrale. Jusqu'où peut-on aller sans perdre ce qui fait de nous des individus uniques ? C'est ici que la réflexion prend toute son importance. L'homme augmenté, enrichi par des dispositifs technologiques, risque de redéfinir ce qui signifie être soi. À mesure que nous intégrons ces outils dans notre quotidien, serons-nous encore capables de nous reconnaître à travers ce que nous devenons ? C'est la question que va donc aborder Luna lors de la première partie de notre analyse.
Merci beaucoup, Augustin. Donc, notre cerveau n'est plus un espace inconnu et inviolable, mais un espace modulable, un espace ayant un potentiel d'amélioration pour atteindre de ce que les transhumanistes diront l'homme augmenté. En effet, de nombreuses technologies ont été développées au cours de ces dernières années, comme le développement des interfaces cerveau-machine, de la stimulation cérébrale électromagnétique, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, etc. Selon les transhumanistes, ces technologies très prometteuses vont pouvoir améliorer la qualité de vie de toutes les personnes malades, handicapées, même les personnes n'ayant pas de problème particulier pour effectuer des tâches simples de la vie. Cependant, ces avancées soulèvent des questions de libre arbitre, d'autonomie et d'éthique cruciales sur la neuro-optimisation et l'augmentation cognitive, termes qui peinent encore à être définis clairement. Donc, voici quelques questionnements qu'on peut se poser face à l'avancée de ces technologies. Serons-nous, d'ici une vingtaine d'années, dépendants d'électrodes ou de puces implantées dans notre cortex ? Pourrons-nous demain en garder le contrôle ? Reste-t-elle la même personne ? Pourra-t-on bientôt lire dans les pensées d'autrui, anticiper nos désirs, nos gestes, nos décisions ? Le libre arbitre est-il uniquement déterminé par notre biologie ou existe-t-il une dimension plus complexe et indépendante de celle-ci ? Ainsi, il soulève des questions profondes sur notre identité, notre libre arbitre et notre autonomie dans un monde où la frontière entre l'humain naturel et l'homme augmenté disparaît progressivement. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir dans cette rubrique. Maintenant que nous avons posé ces questionnements, je vais tenter d'y répondre à travers l'exemple d'une technologie reliant le cerveau et la machine, la stimulation magnétique transcrânienne. Cette innovation récente permet de modifier l'activité des neurones en envoyant des impulsions électromagnétiques à travers le crâne. Elle est utilisée à des fins thérapeutiques, notamment pour traiter les acouphènes, la dépression et les addictions. Cependant, des études menées sur des individus en bonne santé suggèrent que cette technique pourrait également être bénéfique pour la bio-augmentation. Une expérimentation a été réalisée en 2013 pour tester l'efficacité de la stimulation transcrânienne à des humains. Petit rappel sur le fonctionnement de cette technologie, la stimulation magnétique transcrânienne utilise donc des impulsions magnétiques pour influencer l'activité des neurones dans le cerveau. Donc, en envoyant ces impulsions à travers le crâne, elle crée un champ électrique qui peut activer ou inhiber certaines zones du cerveau, modifiant ainsi leur fonctionnement. Donc, revenons à l'expérimentation. Donc, pendant 5 jours, 25 volontaires ont suivi un entraînement cognitif tout en recevant une stimulation cérébrale. En effet, selon un rapport du Comité national d'éthique, 80% des participants ont montré une capacité à apprendre plus rapidement et à modifier leur activité cérébrale. Même 6 mois après l'expérience, les scientifiques ont observé une amélioration encore plus marquée chez certains participants, ce que je trouve incroyable. Ainsi, cette expérimentation montre qu'il est possible, à travers ces technologies, d'améliorer certaines capacités cognitives, comme une amélioration dans la mémoire, dans les activités sportives, au niveau du temps de réflexion, des performances artistiques pour certains, et etc. Ainsi se pose la question, booster la mémoire ou les capacités intellectuelles serait donc possible ? Eh bien, François Berger, un neuro-oncologue ancien directeur de Clinatech, qui est un centre de recherche biomédicale universitaire, critique cette nouvelle technologie. En effet, selon lui, augmenter la mémoire par des technologies repose sur des bases non valides et non prouvées scientifiquement. Je vais vous lire ses paroles. Donc, il explique que les transhumanistes en sont restés à une vision cybernétique des années 1970. Or, un cerveau... Donc, ce modèle avec l'histoire du sujet et son interaction avec l'environnement. Il lui faut oublier pour bien fonctionner. Et si le libre arbitre ou la créativité existe, c'est à condition de ne pas susciter d'hyper-performance dans un domaine. C'est un équilibre subtil. Si une fonction augmente d'un coup, le déséquilibre, puis la pathologie s'installe. Donc, au-delà des déséquilibres cérébraux potentiels et des effets néfastes, ces interfaces entre nos cerveaux et les machines ont-elles un impact sur notre identité, sur notre moi profond ? J'aimerais maintenant entendre l'avis des personnes présentes aujourd'hui dans ce podcast. Pensez-vous que ces technologies nous permettent de mieux nous comprendre ou au contraire risquent-elles de nous déconnecter de notre véritable identité ? Donc, je vous invite à partager votre point de vue en quelques mots.
Alors, je pense clairement que toutes ces innovations risquent de nous déconnecter de notre vraie identité puisque l'on se connaît réellement uniquement en se retrouvant avec soi-même, si je peux le dire ainsi, avec par exemple la méditation. On peut également se connaître avec l'expression de ce que l'on fait sur notre entourage, mais tout ceci risque d'être mis en difficulté par l'intervention de ces technologies comme tu l'as évoqué. Alors clairement, déjà, quelque chose d'actuel, je trouve, c'est quelque chose que l'on peut déjà observer avec les téléphones portables.
Merci.
Je pense, à titre personnel, que vouloir se modifier soi-même, c'est s'éloigner de sa personne et de son identité. On a été construit d'une telle façon à ce qu'on fonctionne d'une certaine manière. Vouloir atteindre cette perfection qu'on ne peut pas atteindre naturellement, c'est se déconnecter de son identité et c'est chercher à être ce qu'on n'est pas réellement. Et donc, c'est s'éloigner de ce qu'on est.
Bon, bah, merci beaucoup pour votre point de vue. Donc jusqu'à présent, nous avons exploré les questions liées au libre arbitre, comme sommes-nous vraiment nous-mêmes après un changement corporel ou une modification cérébrale. Maintenant, dans cette nouvelle rubrique, nous allons examiner la volonté de certaines personnes d'utiliser ces nouvelles technologies pour, au contraire, développer leur identité. En effet, nous ne sommes plus dans un contexte médical ou militaire, mais dans une transformation, une amélioration volontaire. Donc, pour illustrer mes propos, je vais vous présenter quelques pratiques développées par la communauté des body hackers, aussi appelés les pirates du corps humain. Donc, pour bien comprendre ce que sont les body hackers, il est essentiel de définir le terme de hacking. Donc, qu'est-ce qu'un hacker, dans le sens informatique du terme ? C'est une personne qui cherche à maîtriser complètement les outils qu'elle utilise afin de comprendre leur fonctionnement en profondeur et n'hésite pas à les modifier pour les adapter à ses besoins, ce qu'explique Cyril Fievet, un journaliste français et auteur de l'ouvrage « Body Hacking, pirater son corps et redéfinir l'humain ». Dans son livre, il souligne que l'homme n'est plus perçu comme une machine achevée, dont il faut subir les contraintes ou les limites, mais plutôt comme un être sur lequel on peut agir, transformer et améliorer, notamment en lui ajoutant des composantes externes. Cette recherche d'hybridation entre l'humain et la machine commence parfois par un handicap. C'était le cas de Neil Harbison, un artiste et activiste espagnol reconnu comme le premier cyborg légal dans le monde. Un cyborg est un organisme possédant à la fois des parties biologiques et électroniques. Neil Harbison souffre d'achromatopsie, donc c'est une condition qui empêche de percevoir les couleurs. Ainsi, il voit le monde en noir et blanc. Donc en 2004, avec Adam Montandon, un chercheur en informatique anglaise, il développe un iBorg, qui est une caméra fixée sur le crâne de l'artiste espagnol qui convertit les couleurs en fréquences sonores. Ainsi, il peut entendre les couleurs qui l'entourent. Par exemple, les notes les plus basses correspondent aux couleurs du bas du spectre chromatique, comme le rouge, tandis que les notes les plus élevées représentent les couleurs à l'autre extrémité du spectre chromatique, comme le violet. Une amélioration de l'appareil 3 ans plus tard lui permet également de visualiser l'intensité des couleurs. Il déclare également pouvoir distinguer 360 nuances différentes, ainsi que des couleurs invisibles à l'œil humain, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet. Le dispositif se compose donc d'un capteur suspendu devant son front, relié par une antenne à une puce électronique implantée à l'arrière de sa tête. On peut se demander si iBorg offre à l'artiste un nouveau sens que n'ont pas les autres. Il voit les couleurs à travers le son, c'est-à-dire qu'il perçoit les variations de couleurs traduites en variations sonores. Neil Harbison explique dans un interview que dans son rêve, c'était son cerveau qui produisait les sons électroniques et non le logiciel. C'est à ce moment-là qu'il se sentit cyborg lorsqu'il réalisa que le dispositif cybernétique n'était plus simplement un dispositif. Ainsi, nous venons d'illustrer un exemple d'un individu qui a pu mieux se comprendre grâce aux technologies d'implantation cervicale. Pour continuer un peu sur l'histoire de cet artiste espagnol, par la suite, Neil Harbison est devenu un promoteur du cyborgisme. Il a donc créé la fondation Cyborg, qui a pour objectif d'aider les humains qui le souhaitent à devenir cyborg. En effet, il explique que la vie serait beaucoup plus excitante quand nous arrêtons de créer des applications pour nos téléphones et que nous commencerons à créer des applications pour notre propre corps. La fondation ne fait pas de différence entre les personnes avec handicap et sans handicap, précise-t-il. Nous sommes tous handicapés quand nous nous comparons aux autres espèces. Nous sommes tous prêts à accueillir de nouveaux sens, de nouvelles perceptions afin de mieux appréhender la réalité. Les êtres humains ont intégré, je crois, des aptitudes qu'ont des animaux ou des insectes, à travers de nouvelles technologies et innovations. Donc, serons-nous demain tous un peu cyborgs ? Certains estiment que nous le sommes déjà, car nous sommes constamment connectés ou dépendants des machines, des outils, de nos téléphones portables et de nos ordinateurs. Donc, pour conclure cette rubrique, nous pouvons affirmer que les personnes qui adoptent des technologies le font souvent par nécessité, comme le montrent les récentes innovations destinées à soigner et à réparer des individus gravement handicapés ou blessés. Cependant, une nouvelle tendance se dessine. Des personnes en bonne santé cherchent désormais à devenir des cyborgs. Donc, elles souhaitent dépasser leurs conditions humaines pour se transformer en êtres hybrides.
Ainsi, à l'ère de la fusion de l'humain et du numérique, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau soi ou d'une perte de l'identité ? Les progrès technologiques et scientifiques dans des domaines de neurosciences, de l'intelligence artificielle et de la robotique transforment radicalement notre rapport entre le corps et l'identité. À mesure des projets ambitieux, comme la numérisation de la conscience, la création d'avatars numériques ou le transfert d'esprit vers des environnements virtuels, une question essentielle s'impose. Si notre conscience peut être transférée dans un support numérique, restons-nous les mêmes ? Et si nous pouvions choisir de modifier ou d'améliorer notre esprit ? Que devient notre identité ? Cette réflexion invite à explorer les implications scientifiques et éthiques de ces transformations technologiques. L'idée de numériser la conscience humaine a longtemps été un sujet de science-fiction. Exploré dans des œuvres comme Black Mirror ou Transcendance, aujourd'hui, plusieurs projets ambitieux cherchent à transformer cette fiction en réalité. Neuralink et les interfaces cerveau-machine Alors Neuralink, c'est une entreprise qui a été développée et financée par Elon Musk. Et donc cette entreprise, elle développe des implants cérébraux capables de relier directement le cerveau humain à des ordinateurs. Si l'objectif est tout d'abord médical, comme traiter la maladie d'Alzheimer, cette technologie pourrait à terme permettre de sauvegarder des données cérébrales comme des souvenirs, des pensées. Et une telle capacité ouvre la voie à la création d'un double numérique, une version stockée de notre esprit prête à être transférée dans un support artificiel. Le Human Brain Project, ce projet européen vise à cartographier et modéliser l'activité cérébrale humaine à l'aide de super ordinateurs. Bien que son objectif soit scientifique, mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain dans un environnement numérique, une simulation aussi détaillée pourrait théoriquement recréer une conscience artificielle ou du moins une version virtuelle de celle-ci. Alors ainsi, on approche une immortalité numérique. Il existerait donc un double de nous-mêmes, ce qu'on pourrait appeler un jumeau numérique. Alors, les jumeaux numériques, aussi appelés les digital twins, bien qu'actuellement développés pour des applications industrielles et médicales, pourraient jouer un rôle central dans la représentation numérique des individus. Des entreprises comme IBM ou Microsoft travaillent sur des systèmes d'IA capables de modéliser le comportement et la personnalité humaine. Dans un contexte humain, ces jumeaux numériques seraient capables de simuler nos décisions, anticiper nos réactions ou même interagir de manière autonome. Par exemple, un jumeau numérique recherche, montre que des systèmes pourraient même apprendre, évoluer et s'adapter indépendamment de leur créateur humain, posant ainsi une question centrale. Si notre double numérique peut évoluer différemment de nous, jusqu'où peut-on dire qu'il nous représente réellement ? Alors ainsi, cette identité, elle est malléable. Les technologies de numérisation et d'interface cerveau-machine ne se limitent pas à préserver ou reproduire notre esprit. Elles offrent également la possibilité d'augmenter nos capacités cognitives et de modifier volontairement des aspects de notre personnalité. Kernel et l'augmentation cognitive, c'est un projet, Kernel, qui développe des technologies qui permettent d'améliorer la mémoire, la concentration ou encore la vitesse de traitement du cerveau. Ces outils pourraient transformer la manière dont nous utilisons nos capacités mentales, créant un fossé entre ceux qui sont augmentés et ceux qui ne le sont pas. Si un individu augmente ses capacités de manière drastique, est-ce qu'il reste toujours la même personne ou est-ce qu'il devient une nouvelle version de lui-même ? YouMai, c'est une entreprise qui cherche à transférer la conscience humaine dans des corps artificiels. Les corps synthétiques, ce sont donc des personnalités qui pourraient inclure des capacités surhumaines, comme une force accrue, une durée de vie prolongée. Si on peut choisir des améliorations radicales comme supprimer des souvenirs qui ont été traumatisants ou redéfinir sa personnalité, cela pose une question identitaire fondamentale. À partir de quel point cesse-t-on d'être soi-même pour devenir une entité entièrement nouvelle ? Alors ces environnements numériques permettent déjà de redéfinir notre identité de manière spectaculaire. Des plateformes comme Second Life ou des outils de création comme MetaHuman Creator d'Epic Games offre la possibilité de concevoir des avatars numériques ultra réalistes, parfois radicalement différents de notre apparence ou de notre personnalité. Dans le futur, des mondes virtuels plus avancés, notamment dans le cadre de métavers, permettront à chacun de vivre de multiples vies avec des identités variées. Cela soulève donc des questions sur l'impact de ces identités multiples, sur une notion de soi. Sommes-nous encore nous si nous existons sous différentes formes ? Alors, la fusion de l'humain et du numérique soulève des dilemmes éthiques majeurs. La continuité de l'identité, selon le philosophe Derek Parfit, repose sur la continuité psychologique. Si une version numérique de nous-mêmes, ou de nos souvenirs et de nos comportements, est-ce qu'on peut dire que c'est réellement nous ? Et cette continuité est rompue, par exemple, en transférant la conscience dans un support non biologique, est-ce que le soi persiste réellement ? Ce nouveau soi pourrait également avoir un impact sur les relations humaines. Les avatars numériques interactifs, comme ceux proposés par Ethermine, pourraient altérer notre perception du deuil et donc réinitialiser les impacts traumatisants de notre vie. Interagir avec une copie numérique d'un proche disparu est-il à surmonter la perte ou nous empêche-t-il de tourner la page ? La fusion et le numérique n'est pas qu'une question technologique, mais une transformation profonde de notre conception de l'identité, du corps et de la conscience. Des projets comme Neuralink, Etherheim ou Mindclone montrent bien que nous sommes à l'aube d'une ère où la frontière entre l'humain et la machine s'estompe. Nous allons donc écouter la musique I am the very model of Singularity Tyrant de Charlie Kaun, un transhumaniste engagé et membre de la World Transhumanist Association qui est donc aujourd'hui devenue la Humanity Plus.
I am the very model of a singularitarian. I'm combination transhuman and mortal less extropian. Aggressively, I'm changing all my body's biochemistry because my body's heritage is altered genetically. Replacing all the cells these bunches here just temporarily. The pattern of my brain and body's weather's continuity. I'll try to improve these patterns with optimal biology. But how will I do that? I need to be smarter. Ah, yes. I'll expand my mental faculties by merging with technology.
Expand his mental faculties by merging with technology. Expand his mental faculties by merging with technology. Expand his mental faculties by merging with technology.
And with a new technology, renewable clean energy, remove our pathogens and overcome hunger and poverty. In short, I am a transhuman, a modalist extropian. I am the very model of a singularitarian.
In short, he is a transhuman, a modalist extropian. He is the very model of a singularitarian.
Knowledge in all forms, music, art, science, and technology. Our brains and bodies are precious in any loss of tragedy. Important recognitions and insights are what we should retain while we destroy all of the useless information that remains. And when a person dies, we lose a profound pattern tragedy. And the part of ourselves that interacted with them literally. Religious folks may rationalize that death is really something good. Something good? Something good? Huh? I think they changed our minds if singularity were understood.
I think they changed our minds if singularity were understood. I think they changed our minds if singularity were understood. I think they changed our minds if singularity were understood.
I create and appreciate all of the knowledge that I know to greater order, even though complexity I know may grow. In short, I am a transhuman, a modalist extropian. I am the very model of a singularitarian.
In short, I am a transhuman, a modalist extropian. He is the very model of a singularitarian.
The purpose of the universe is that of all our human lives. Since no aliens have come forth this much, we can now rationalize. We'll spread our thoughts with nanobots that know how to self-replicate. Through solar system, Milky Way, or anywhere we designate. Ideas are our products that will solve the problems of our fate. And new ideas for the problems we can't yet articulate. Let's leverage all our knowledge from the returns that accelerate. Returns that accelerate? Sounds familiar. Ah, yes, the law of accelerating returns by Ray Kurzweil. Well, of course, of course. So the outcome of the universe is something we can contemplate.
The outcome of the universe is something we can contemplate. The outcome of the universe is something we can contemplate. The outcome of the universe is something we can contemplate.
The singularity is near, but I won't be indifferent. In case something should go awry, I'll do my best to prevent. Because I am a transhuman, immortalist extropian. I am the very model of a singularitarian.
Because he is a transhuman, immortalist extropian. He is the very model of a singularitarian.
Yes! Singularity! Woohoo! Singularity is here! Singularity is here!
Mesdames et messieurs, bienvenue sur le 94.9 sur Graphite. Nous sommes encore avec les échos de l'innovation et maintenant nous allons explorer les enjeux éthiques et philosophiques du transhumanisme. Il est alors essentiel dans nos discussions sur le transhumanisme d'explorer la nature humaine et de la définir. Sommes-nous des êtres sensibles, dominés par nos émotions ou des êtres de raison? Cette question est cruciale, surtout lorsqu'il s'agit de réfléchir à la manière dont le transhumanisme pourrait amplifier ou modifier nos capacités humaines. Est-ce qu'il s'agit d'une amplification de notre intellectuel, de notre intellect pardon, distinctif ou d'une suppression de notre discernement émotionnel ? D'une part, l'homme est incontestablement un être sensible. Cependant, ce qu'on entend rarement, c'est que nous sommes constamment en train de communiquer et de susciter des émotions. Par exemple, une étude de l'université de Stanford a révélé que les gens sont fortement influencés par les émotions des autres, particulièrement dans des contextes sociaux comme les médias sociaux. L'étude a montré que les individus sont plus susceptibles de ressentir des émotions plus fortes lorsqu'ils sont exposés à des expressions émotionnelles intenses telles que la colère ou l'indignation en réponse à des événements politiques. Cette contagion émotionnelle se produit de manière automatique. L'amélioration cognitive, thérapie transhumaniste ou l'intégration homme-machine feront face à la complexe interprétation et simulation des émotions humaines, comme la mélancolie mêlée à de l'espoir. Les machines sont limitées dans leur capacité à saisir les nuances profondes de l'expérience humaine. Une analyse de l'Université de Genève stipule que le mouvement transhumaniste promet un avenir radieux, mais il n'est pas certain que le bonheur soit au rendez-vous. Les modifications technologiques pourraient altérer la perception humaine du bonheur. Les IA qui tentent de reproduire l'intelligence émotionnelle se limitent souvent à des catégories binaires d'émotions fondamentales, comme la peur ou la surprise, et tentent de prédire quelle émotion est en jeu en fonction des modèles statiques. Dans le cadre d'un challenge entrepreneurial l'année dernière, le gagnant avait l'idée de lancer une IA thérapeutique pour la santé mentale. Je pense qu'il est similairement possible de concevoir une technologie pour supprimer l'anxiété ou la phobie. Cela pourrait aboutir à une réduction involontaire de la richesse ou de l'intensité émotionnelle. Un individu amélioré pourrait devenir moins réactif émotionnellement à certaines émotions comme effet secondaire de cette technologie. Ces technologies pourraient tout aussi bien amplifier certaines émotions ou créer de nouvelles, comme l'espoir ou l'émerveillement devant un monde élargi par des capacités augmentées. Cela dépendra des intentions des développeurs de ces technologies, des mécanismes sous-jacents et des choix éthiques faits par les utilisateurs. D'un autre côté, il est tout aussi légitime de considérer l'humain comme défini par sa rationalité. Aristote, dans Éthique à Nicomania, dans le premier livre, chapitre 7, décrit la fonction propre de l'homme comme étant une activité de l'âme conforme à la raison ou ne se déroule pas sans la raison. Aristote pense que la finalité de l'homme réside dans l'utilisation de l'intellect et la simulation intellectuelle, notamment dans la politique, et en plus, il atteint le bonheur dans cette stimulation intellectuelle. Les technologies transhumanistes pourraient alors être perçues comme un moyen d'atteindre cette finalité intellectuelle en permettant à l'homme de transcender ses limites biologiques. L'homme, en essence, est une intelligence incarnée dans une boîte biologique. Cependant, cette boîte impose des restrictions. Nos capacités cognitives, notre mémoire et même notre espérance de vie sont limitées par des contraintes physiques et biologiques. Il est évident alors que ces deux caractéristiques, la raison et l'empathie, définissent le caractère humain. L'humanité se manifeste par l'empathie envers autrui, une empathie qui s'exprime aussi sur le plan intellectuel. C'est ainsi que certaines figures historiques sont déshumanisés par leur manque d'empathie, tout comme les animaux sont perçus comme démunis de raison. Cependant, le transhumanisme remet en question cet équilibre délicat. Il est donc crucial de considérer l'influence que ces technologies pourraient avoir sur notre nature humaine. L'implantation de puces ou l'utilisation d'intelligence artificielle met à mal l'intellect humain. Comme Aristote l'a soutenu, l'intellect doit être exercé pour atteindre le souverain bien, ça veut dire le bonheur. Or, en rendant tout instantanément disponible, ces technologies risquent paradoxalement de freiner notre réflexion et d'éroder notre capacité à raisonner par nous-mêmes, non dépendant d'une technologie extérieure. De même, en perfectionnant le génome humain et l'ingénierie génétique, en améliorant nos capacités physiques, endurance, force ou autres, nous risquons d'uniformiser l'expérience humaine. Cette standardisation pourrait grandement réduire la diversité au sein de nos populations, ainsi que les difficultés et les émotions ressenties qui sont essentielles à un humain authentique. Ainsi, une question fondamentale demeure : de quel humanisme parle-t-on dans le transhumanisme ? Nous allons donc aborder cette question dans la rubrique 5 et je voudrais commencer par une petite analyse étymologique du transhumanisme. Le préfixe « trans » signifie « au-delà ». « Humain » fait référence à l'homme et « isme » est un suffixe désignant une idéologie ou une pensée. Ainsi, le terme « transhumanisme » signifie littéralement « la pensée d'aller au-delà de l'homme ». Lorsque Elon Musk fervent défenseur du transhumanisme et directeur de Neuralink, Tesla et SpaceX, affirme que le téléphone est une extension de nous-mêmes. Il met en lumière un aspect déjà présent dans notre quotidien, la technologie transcende des limites humaines. En permettant une communication instantanée et mondiale, le téléphone portable illustre déjà un dépassement subtil des contraintes humaines, préfigurant des technologies transhumanistes plus avancées. Cependant, une enquête menée par la Fondation Ramsay Santé révèle que 51% en France, 51%, utilisent leur téléphone principalement pour les réseaux sociaux, 15% pour se divertir et qu'un tiers se considère dépendant. Ces chiffres soulignent ce que les chercheurs appellent le paradoxe de l'interdépendance. Nous utilisons les téléphones pour leurs utilités, mais leur omniprésence finit par nous emprisonner. Si nous avons déjà du mal à gérer une technologie aussi primitive comparée aux ambitions transhumanistes, comment pourrons-nous maîtriser des innovations encore plus puissantes ? Le transhumanisme pose également des défis éthiques majeurs. Par exemple, la modification génétique pour atteindre une perfection biologique pourrait enfermer les individus dans un déterminisme absolu. Modifier le code génétique avant la naissance trace un avenir sans possibilité de consentement pour celui qui en hérite. Qui en hérite ce génome parfait. Comme l'affirme Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes. Le transhumanisme, en cherchant à perfectionner l'homme, risque de détruire cette capacité fondamentale à mener son propre projet, à être libre et à exercer son humanité dans une course sans fin à l'amélioration transhumaniste. Pourtant, existe-t-il des exceptions éthiques ? Si nous avons la capacité d'éliminer des maladies génétiques graves avant leur apparition, refuser d'intervenir reviendrait à manquer d'empathie, qualité essentielle à notre humanité, comme nous avons discuté. La prévention des souffrances inutiles est une forme de progrès moral, tout comme l'interdiction de la peine de mort. Il faut donc trouver un équilibre, rester éthique et éviter que l'amélioration technologique devienne une quête déshumanisante. Des risques et des limites à éviter à tout prix que nous allons davantage explorer dans la rubrique suivante.
Merci beaucoup Farès. Le transhumanisme fait rêver effectivement aujourd'hui de nombreux adeptes d'un avenir où la santé parfaite, la longévité extrême et l'intelligence surhumaine seraient accessibles à tous. Pourtant, derrière ces promesses d'un avenir radieux, il est essentiel d'adopter une approche critique des projets transhumanistes. Si certains de ces développements technologiques peuvent sembler prometteurs, il convient de se demander s'ils ne cachent pas des illusions qui ne sont qu'un moyen de vendre des produits et des idées sans fondement scientifique solide. Alors le transhumanisme repose sur l'idée que la technologie, donc notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie et les nanotechnologies, peut et doit être utilisée pour améliorer l'homme, voire le rendre immortel. Ce projet se base sur une vision du progrès où l'homme, à travers les avancées scientifiques, peut transcender ses limites biologiques, éradiquer la souffrance et atteindre une forme de perfection. Cependant, ces promesses, bien qu'attirantes, sont souvent dissociées de la réalité scientifique actuelle. L'idée de rendre un homme immortel par la réparation génétique, la congélation du cerveau, comme dans les projets de cryogénisation, ou encore par des implants neuronaux, relève plus du rêve que de la science. En effet, aucun de ces projets n'est actuellement soutenu par des résultats concrets ou des démonstrations scientifiques sérieuses. Des chercheurs comme François Barre-Sinoussi, qui est un prix Nobel de la médecine, ou encore Jean-Michel Besnier, qui est également un philosophe spécialiste des nouvelles technologies, avertissent régulièrement que ces visions du transhumanisme sont non seulement irréalistes, mais qu'elles peuvent aussi dissimuler des intentions commerciales très lucratives. En effet, certains acteurs du marché, comme des entreprises spécialisées dans la cryogénisation ou la création d'interfaces cerveau-machine, cherchent souvent à capitaliser sur ces fantasmes en promettant des solutions d'immortalité et de perfection physique sans aucune garantie scientifique. Si le transhumanisme offre des perspectives fascinantes sur ce que la technologie pourrait apporter à l'humanité, il ne faut pas se laisser séduire par un discours utopique qui vend des solutions sans fondement scientifique. Derrière les promesses d'immortalité, de perfection physique ou encore de progrès ininterrompu, il existe de nombreuses questions éthiques, sociales et environnementales qui ne doivent pas être ignorées. Alors, au lieu de se précipiter tête baissée dans ce futur technologique, il est crucial de développer une réflexion critique sur les enjeux réels, d'exiger une véritable transparence scientifique et également de prendre conscience des conséquences sociales et écologiques d'un monde dominé par la technologie. Ainsi, le transhumanisme ne doit pas devenir un moyen de vente masqué, mais plutôt un domaine de réflexion éthique où les promesses de progrès s'accompagnent d'une reconnaissance de nos limites humaines et de nos responsabilités collectives. Ainsi, le transhumanisme soulève de nombreuses questions sur la maîtrise des évolutions technologiques et les conséquences imprévisibles de ces innovations. Si certains transhumanismes voient dans ces progrès une voie vers une humanité plus forte, plus saine et potentiellement immortelle, d'autres s'inquiètent des risques physiques, sociaux et politiques que ces technologies pourraient entraîner. Alors, le progrès technologique étant rapide, ses effets peuvent être difficiles à anticiper. Pour vous donner ces simples exemples, on peut diviser ces effets en deux catégories. Premièrement, les risques inconnus, puis, dans un second temps, les effets secondaires. Alors, pour ce qui est des risques inconnus, des avancées comme l'édition génétique, donc c'est la CRISPR, ou les implants cérébraux pourraient avoir des effets inattendus sur la santé humaine et sur l'environnement social. On peut prendre par exemple les avancées génétiques des OGM qui paraissaient une solution super pour augmenter le rendement, mais en réalité contribuent à l'appauvrissement génétique des écosystèmes. Qu'est-ce qui nous dit que de telles choses seront évitées dans le cas du transhumanisme ? Et pour ce qui est des effets secondaires, il est possible que certains progrès aient des conséquences indirectes sur d'autres domaines comme la société, la politique ou encore les inégalités économiques. Comme évoqué précédemment, ces technologies pourraient bouleverser l'ordre de nos sociétés et devenir même des technocraties par exemple. Si les progrès technologiques nous permettent d'aller plus loin dans le contrôle de notre biologie, la question de la prévisibilité des conséquences reste donc encore ouverte. L'histoire nous montre même que, même avec des connaissances avancées, l'humanité a souvent été incapable de prévoir l'impact complet des innovations. Marie Curie découvrant la radioactivité, pouvait-elle prévoir la suite de la radiothérapie à la bombe atomique ? Autant de bien que de mal peuvent découler de toutes innovations technologiques. L'une des préoccupations majeures des opposants au transhumanisme concerne les risques physiques tout d'abord, associés à ces technologies qui altèrent ou augmentent le corps humain. Toute technologie risque d'avoir des conséquences inattendues sur la santé et la biologie de l'individu. En effet, le biologiste Yael Cohen, dans son ouvrage « The Biology of Human Enhancement », met en garde contre les effets secondaires des technologies de modification génétique, donc comme la CRISPR que j'ai déjà évoquée. Bien qu'elle offre une promesse de guérison des maladies génétiques, son usage non contrôlé pourrait conduire à des mutations imprévues, voire à des effets génotoxiques à long terme qui pourraient se transmettre aux générations futures. De plus, les technologies qui augmentent le corps humain, telles que les implants, les nanotechnologies ou les prothèses bioniques, risquent de créer des inégalités physiques, puisque les personnes ayant accès à ces technologies pourraient bénéficier d'un avantage physique par rapport à celles qui n'en ont pas les moyens, augmentant ainsi le fossé social, ce qui nous mène directement à un second risque, un risque social cette fois, puisque les progrès transhumanistes pourraient également exacerber les inégalités sociales et économiques. À l'heure actuelle, l'accès aux technologies avancées est limité par des facteurs tels que le revenu, l'éducation et l'emplacement géographique. Selon le philosophe Nick Bostrom, dans son ouvrage Super Intelligence, il existe un risque majeur de créer une société à deux vitesses, entre une élite augmentée par les technologies et une majorité qui reste biologique et limitée par des capacités humaines naturelles. Ainsi, le transhumanisme, au lieu d'être une voie d'émancipation, pourrait conduire à des facteurs et des fractures sociales profondes, créant une aristocratie techno-bio qui aurait les moyens de se rendre immortelle, tandis que le reste de la population serait privée de ces avancées. Les conséquences sociales pourraient également inclure l'aliénation et l'isolement des individus augmentés, qui pourraient être perçus comme supérieurs ou bien inaccessibles par les autres membres de la société. Par ailleurs, des technologies comme la création de clones humains ou l'uploading de la conscience pourraient remettre en question des notions de famille, d'identité et d'humanité, créant un décalage entre les valeurs sociales et l'évolution technologique, comme il a été évoqué auparavant. On peut également ranger dans cette catégorie le risque lié aux promesses des transhumanistes. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà évoqué, le mouvement rentre inévitablement dans une économie de la promesse, un solutionnisme. C'est-à-dire, pour rappel, que l'on vend des améliorations et prouesses à la population, alors qu'on en est encore loin. Ce qui provoque donc ce risque social d'épuisement économique de populations fragiles, qui souhaiteraient faire aveuglément confiance et donner tout son argent, par exemple. Les investissements dans des technologies telles que les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle sont souvent basés sur des visions utopiques, mais les résultats réels peuvent être bien moins radieux. Pour ce qui est du plan politique, la question du contrôle des technologies transhumanistes est centrale. le pouvoir de modifier le corps humain, d'effacer des souvenirs ou de prolonger la vie pourrait entraîner des dérives totalitaires. En effet, Yuval Noah Harari, dans son livre Homo Deus, alerte sur le risque que des gouvernements ou des entreprises privées détiennent le pouvoir de modifier les êtres humains à des fins de contrôle social ou de manipulation politique. Dans un contexte où les technologies deviennent de plus en plus sophistiquées, il est possible que des puissances politiques exploitent ces technologies pour maintenir leur domination sur les citoyens ou pour instaurer des régimes autoritaires. La question centrale reste de savoir si ces évolutions peuvent être maîtrisées. Certains transhumanismes, comme Ray Kurzweil, prédisent un avenir où la technologie évoluera de manière linéaire et bénéfique, avec des progrès continus et contrôlés. Cependant, cette vision semble ignorer l'imprévisibilité de ces technologies, puisqu'en effet, les innovations technologiques ne suivent pas toujours un chemin prévisible. Le chaos technologique peut émerger avec des conséquences qui échappent à toute forme de régulation ou de contrôle. Le philosophe Hans Jonas, dans son ouvrage Le principe de responsabilité, a écrit sur la nécessité de prendre en compte les conséquences imprévues des nouvelles technologies. Il plaide donc pour une éthique de la prudence où les évolutions technologiques doivent être abordées avec une extrême précaution en anticipant les risques à long terme. C'est pour cela que les progrès techniques ne peuvent pas tout maîtriser. L'environnement, les conditions socio-économiques et politiques peuvent jouer un rôle déterminant dans la manière dont ces technologies sont utilisées. Pour aller plus loin, une technologie ne s'évoque pas seulement dans un laboratoire, mais plutôt dans une relation systémique complexe avec des connexions entre différents acteurs et domaines qui ne se limitent pas qu'à la science. Ce qui peut paraître tout à fait paradoxal, on cherche à contrôler le génome humain, mais cela mène tout droit à une perte de contrôle, démultiplié et des évolutions dans tous les sens. Ainsi, face aux risques potentiels évoqués précédemment, la question du contrôle juridique des technologies transhumanistes devient impérative. Comment pouvons-nous encadrer ces avancées sans tomber dans des dérives, tout en préservant notre dignité humaine et évitant de promettre des utopies irréalistes ? Alors pour ce qui est d'éviter les dérives, il est essentiel de mettre en place des législations rigoureuses qui garantissent la sécurité des individus et le respect des principes éthiques. Une des premières étapes pourrait être de définir clairement ce qui relève de la médecine réparatrice, donc telles que les prothèses ou les traitements, et ce qui révèle de l'amélioration pure de l'humain. Ainsi, les modifications génétiques ne devraient pas être autorisées pour des raisons purement esthétiques ou pour améliorer des capacités intellectuelles ou physiques, mais uniquement dans un cadre médical strictement contrôlé. C'est notamment ce qu'ont tenté de faire au Parlement français des députés dans le cadre du projet de la loi relative à la bioéthique, un amendement malheureusement rejeté dès la première lecture. Le contrôle des intelligences artificielles et des implants neuronaux doit être assuré par des instances internationales indépendantes, avec des règles de transparence et des protocoles de sécurité stricts. Les gouvernements devront alors collaborer à l'échelle internationale pour créer des normes communes sur l'utilisation de ces technologies, notamment en ce qui concerne les questions de vie privée, de sécurité des données et d'autonomie des individus. En se mettant d'accord, ils évitent que certaines personnes aillent donc à l'étranger dans le but même de se faire améliorer. L'une des clés pour éviter la dérive consiste à favoriser une éducation dite critique des citoyens face aux nouvelles technologies. Il est essentiel que les individus aient accès à une information complète et transparente sur les enjeux du transhumanisme, chose que l'on a d'ailleurs tenté de faire par le biais de cette émission de radio. L'un des plus grands défis du transhumanisme est donc de préserver ce qui fait de nous des êtres humains avec notre liberté et notre dignité. Il est essentiel de se poser des limites éthiques claires afin de ne pas perdre de vue les valeurs fondamentales qui sous-tendent nos sociétés. Le prolongement de la vie, par exemple, ne doit pas se faire au détriment de la qualité de cette vie. La quête de l'immortalité, souvent vue comme une utopie transhumanisme, pourrait être porteuse de dangers profonds. Comme l'écrit Francis Fukuyama dans La fin de l'humanité, l'idée de supprimer la mort pourrait finalement aliéner l'humanité en la coupant de ses racines biologiques et de ses valeurs morales. Ainsi, une des solutions pourrait même être une déclaration universelle sur le transhumanisme et les droits de l'homme, une solution proposée par Catherine Lebris, chercheuse au CNRS. Le transhumanisme ouvre donc un champ immense d'opportunités, mais aussi de risques. Si les promesses de cette révolution technologique sont alléchantes, il est essentiel de les aborder avec une prudence éclairée. Les législations doivent encadrer l'évolution de ces technologies pour éviter les dérives, protéger la dignité humaine et garantir que ces avancées profitent à l'ensemble de la société et non à une élite privilégiée. Ainsi, il ne s'agit pas de rejeter totalement ces innovations, ni de plonger la tête la première, mais d'être capable de se rappeler dans quel imaginaire ce mouvement s'inscrit, dans quel but, et surtout de ne pas tomber dans le piège de la promesse technologique. L'avenir de l'humanité ne se construira pas en fuyant la mort, mais en apprenant à l'accepter tout en cherchant à améliorer nos conditions de vie de manière éthique et responsable. Merci d'avoir écouté cette émission des Échos de l'innovation et d'avoir voyagé avec nous à travers ce mouvement qu'est le transhumanisme.
Can you imagine when this race is won?